Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, du 22 au 24 novembre à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeur et Cité Verte Europe, sur Radio Imo et Radio Territoria.
On retrouve Denis Hameau. Bonjour Denis Hameau.
Bonjour.
Vous êtes conseiller à Dijon Métropole, vous êtes adjoint au maire de Dijon en charge de la qualité du service public et des relations aux usagers et à l'innovation.
Oui.
On va parler aujourd'hui du projet On Dijon que vous avez porté et que vous suivez depuis de nombreuses années. Donc ce projet a été lancé en 2019 à l'échelle de la métropole avec la possibilité d'agencer un nombre conséquent de services publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que ce projet a été mis en place et où est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Alors c'est un projet un peu au long cours puisque donc on l'a lancé en avril 2019. Au préalable, on a fait tout un travail avec un dialogue compétitif avec quatre équipes de grands groupes. Et puis, ces quatre équipes nous ont fait des propositions pour piloter ce que nous appelions au départ des fonctionnalités urbaines, donc la mobilité, l'éclairage public, la sécurité. Donc, c'était plutôt les équipements dans la ville. Ça permettait de raccorder des bâtiments aussi pour les piloter à distance. Ça permettait de géolocaliser des véhicules et... notre travail a été d'articuler toutes ces fonctions avec la police municipale, avec le portail téléphonique aussi à l'époque qui s'appelait Allo Mairie et qui donc nous permettait de recueillir de l'information de la part des habitants. C'est cet ensemble-là que nous avons mis ensemble.
Centraliser les données voilà. Pour avoir un meilleur pilotage de la ville.
Voilà, tout à fait. Et puis de pouvoir prendre de bonnes décisions, mais en rebalayant l'ensemble des processus et des procédures. Donc il y en avait plus de 600 à l'époque. Donc là, je rentre de Barcelone en 2022, le Smart City Expo World Congress. Et en 2018, on était en compétition avec Singapour, Londres, Melbourne, Santiago du Chili, des très grosses villes, pour justement démontrer que la Smart City pouvait être humaine et aussi soutenable, c'est-à-dire durable.
C'est pas forcément des grandes mégalopoles ou métropoles.
Voilà, c'est aussi accessible des villes ou des métropoles de taille intermédiaire. Voire des communautés de communes qui se mettent ensemble. Et donc là, l'idée, c'était de... On avait dit, voilà, on va faire l'hyperviseur, il est fait, les infrastructures sont faites. Donc c'est quand même un projet de 105 millions d'euros qui est porté par un consortium avec Bouygues Énergie et Services, Capgemini, Citelum, pour l'éclairage public, puisque c'est un élément important du modèle économique. Et puis, on a aussi Suez dans le consortium. Et l'idée, c'est à partir de cette hypervision des infrastructures, et d'ailleurs... Le crash test pour nous, ça a été le Covid, puisque là, on s'est retrouvé dans une situation inédite et il a fallu faire face de manière incroyable.
Nouveauté, adaptation.
Voilà, adaptation. Le portail téléphonique devenu On Dijon est passé à 7 jours sur 7, 24-24 pour faire face à cette situation. Et le fait d'avoir une salle de crise et tout coordonné nous a permis de nous plugger d'une certaine manière avec le CHU local, avec... les 23 maires qui pouvaient communiquer ensemble et donc avec la Poste, avec un certain nombre de services publics qui justement nous permettaient d'être réactifs dans cette situation.
Mais le Covid a accéléré la procédure et le process ou finalement non, ça a permis de démontrer l'efficacité de ce qui avait déjà été mis en place ?
Il a permis de valider la solidité, la robustesse des processus qui avaient été mis en œuvre et puis nous a permis aussi d'ajuster des choses puisqu'on a découvert par exemple que avec le Covid vous aviez des populations comme des personnes très âgées qui d'un coup d'un seul n'avaient plus de solidarité familiale, n'avaient plus leur famille à proximité ou de voisinage. Et donc ils se retrouvaient dans le vide, avec un frigo vide, avec pas leurs médicaments, pas la possibilité d'appeler le médecin.
Enfin, aucune solution
voilà,
de
pas
secours.
De solution. Donc là on a trouvé des solutions rapides face à cette situation. Pour revenir au projet, donc, il a une partie donc avec l'éclairage public notamment et donc l'économie d'énergie, en ce moment ça parle à tout le monde. Donc du coup le fait d'avoir fait ça, ça nous permet de faire gagner à la collectivité des recettes importantes en termes de budget non mobilisé, hein, ouais. En termes de dépenses. Et puis surtout, là aujourd'hui avec le portail téléphonique On Dijon, on a eu une deuxième étape. Donc il y a un an, j'ai lancé, j'étais ici d'ailleurs au Salon des maires, et j'avais parlé de l'application On Dijon qui devenait une extension justement de ce portail téléphonique On Dijon.
On peut faire un point d'étape comme ça.
Voilà, et on peut faire un point d'étape. Donc l'application On Dijon, d'une part, elle a été construite et co-construite avec la direction numérique de la métropole et de la ville de Dijon. Elle a été faite avec Capgemini et j'y tenais beaucoup. On a fait un appel à volontaires pour que les citoyens nous aident à construire cette application, qu'elle
et
leur soit vraiment utile.
Et apportent leur regard et voilà. L'utilisation
et
au jour le jour.
Et leur critique, et puis
bah,
je comprends pas, votre vocabulaire, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, et donc, on a fait un appel à volontaires, il y en a eu 2000. ça faisait un peu trop, on en a gardé 200. Et les 1800, on leur a dit, vous serez bêta-testeurs, parce que quand on aura la V0, on vous la soumet et vous allez la...
Jouer le jeu pour savoir ce qui va pas, nous la
tester. Le fait d'avoir fait ça, ça nous a permis d'avoir une adhésion assez forte des citoyens, et puis surtout d'avoir un service qui leur est utile, parce qu'ils nous ont fait des retours sur leurs besoins. Donc on est parti de là. Ensuite, cette application, ben, on l'a lancée il y a un an, donc lors de la foire de Dijon. Mm-hmm. On a eu 3000 téléchargements, quasiment, en très peu de temps, en quelques mois. On a fait une pause pour voir comment les services s'ajustaient au temps réel, parce que quand on est dans cette nouvelle manière de rendre le service, il ne s'agit pas de faire des promesses en l'air, il faut voir si les services ne sont pas trop sous pression, si nos dispositifs qu'on avait imaginés sans ce temps réel tiennent quand même le coup.
Oui, tout ce qui est derrière, il faut que ça puisse suivre, voilà. S'il y a des signalements, voilà. Si on a accès à des informations.
On a regardé tout ça, et puis ensuite on a réouvert, et aujourd'hui on est à plus de 12 000 téléchargements. Et on a poussé un certain nombre de services comme la carte d'identité, si vous voulez la renouveler ou votre passeport, vous pouvez le faire à distance, prendre rendez-vous comme sur Doctolib. Vous pouvez ensuite aller dans la mairie annexe qui vous va bien. Il y a des points d'intérêt, donc vous pouvez voir le terrain de tennis qui est le plus proche de chez vous si vous avez envie de jouer au tennis, ou la piscine qui est la plus proche, et ses horaires si vous avez envie d'aller à la piscine. Il y a des gens qui peuvent réserver des livres dans une bibliothèque ou prolonger leur réservation, donc c'est des côtés pratiques. On a poussé un simulateur de tarifs, ça nous a été demandé par les citoyens, puisque ils réservent pour leurs enfants des centres de loisirs, ils payent la cantine aussi à distance, et donc tout ça nous a permis de leur amener des services.
Ça ouvre la palette de services pour les citoyens.
Voilà. Donc ça c'est la partie service public et la façon de faire bouger, d'innover, de rendre plus moderne le service public.
Ça revitalise le service public d'une certaine manière.
Tout à fait. Et en parallèle, on avait tout le volet signalement qui était dans l'application. Donc vous pouvez signaler des problèmes de voirie, des problèmes d'éclairage public, des problèmes de tag, ou vous pouvez aussi nous donner une idée, ça peut être positif. Tout ça a été mis à disposition des citoyens dans plusieurs domaines, les déchets... les voitures abandonnées, donc c'est ni la police, on le dit dans l'application, ni le SAMU. Donc on est d'accord, hein, il s'agit justement pour nous d'avoir de l'information et à partir de cette information d'être efficace dans notre traitement du service public. D'une certaine manière, on coproduit le service avec le citoyen aujourd'hui.
Mais si le citoyen a un rôle, il va automatiquement jouer ce rôle et effectivement être de plus en plus intéressé. Donc c'est une forme d'attractivité territoriale, de revitalisation de services publics. Et on en parlait tout à l'heure pour les personnes âgées, ça permet aussi de favoriser l'inclusion des citoyens.
Tout à fait. Donc là, dans les sujets qu'on a, c'est par exemple dans l'inclusion, il y a à la fois voir les personnes les plus fragiles et comment elles accèdent ou pas aux droits et comment on peut travailler à des dispositifs qui vont vers eux, parce que parfois ils ne s'autorisent pas à venir vers les institutions, parce qu'il y a une barrière, il y a un blocage du fait parfois d'un... Voilà, on n'a pas eu la chance d'avoir une éducation ou d'avoir les codes, et donc on est un peu bloqué. Mais il y a aussi de l'intergénérationnel qu'on peut mettre en place. Hein. On peut faire travailler ensemble des jeunes lycéens, on est en train de le faire, avec des personnes qui font partie d'une association de seniors. Donc ça, c'est une autre manière d'imaginer l'inclusion et de l'intergénérationnel. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est tout un travail de recueil des données, parce que tout ça produit de la donnée d'infrastructure, de la donnée citoyenne, évidemment RGPD, anonymisée, enfin, on respecte les règles de la CNIL, et les règles tout simplement de comme on dit, privacy, hein, de liberté individuelle. Et en faisant ce travail, on est en train de recueillir une masse de données considérable, qu'on est en train d'organiser aussi dans un data hub. Et on va loger des données d'infrastructure, des données d'espace public, des données sur la biodiversité, des données sur la transition alimentaire, des données sur l'énergie.
Ce qui permet d'avoir finalement un regard global sur le pilotage que vous pouvez avoir sur l'ensemble du projet.
Tout à fait, mais surtout d'être au service d'autres projets. Donc il y a ONE Dijon, mais il y a aussi d'autres projets, Prodige sur la transition alimentaire, le projet Smart Energy sur l'hydrogène. Et ces autres projets-là produisent aussi des données. Donc on a le hub maintenant pour les récolter. Et à partir de ce hub et de ces enveloppes qui récoltent les données, on en fait une ressource pour le territoire et donc on fait le lien avec l'enseignement supérieur, les ingénieurs, les sciences sociales. Et donc là, il y a une dynamique, coopérative qui peut se mettre en place, à la fois avec le service public et les agents qui rendent le service, qui au quotidien voient telle ou telle contrainte, tel ou tel problème, ils vont pouvoir le poser, on va essayer de le résoudre avec eux, avec les ressources. Tel chef d'entreprise qui a tel produit qui va dans l'espace public, on parlait tout à l'heure de mobilier urbain.
Absolument.
Bah, qui va dire, bah, tiens, moi je voudrais tester ce mobilier-là ou cette idée-là. Il peut venir là et puis venir la tester avec des citoyens, avec des jeunes ingénieurs, avec des gens des sciences sociales, des designers. Et je trouve que ça permet justement d'aller vers cette innovation et vers cette capacité de créativité qu'on peut avoir sur un territoire. Donc on dépasse On Dijon les infrastructures. On a les citoyens au cœur du jeu avec la plateforme téléphonique au départ. Et ça, tout ça interagit. Avec l'extension via l'application, ben, on a une puissance en temps réel avec 12 000 téléchargements, c'est-à-dire 12 000 citoyens qui peuvent nous amener des infos quasiment tous en même temps. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est souvent 60 à 80 signalements en plus par jour, mais c'est pas mal.
Non, ça mais ça permet de nourrir aussi la réflexion et l'aménagement du service.
Et puis, alors qu'avant on avait un historique qu'on savait pas exploiter, aujourd'hui on peut voir des récurrences, par exemple d'accidents. Et donc une récurrence d'accident, si c'est toujours le même et à peu près dans la même configuration, il y a probablement à regarder si l'espace public est pas mal designé ou mal imaginé, et est-ce qu'on peut pas justement le rendre plus en sécurité pour les citoyens.
Ça veut dire que finalement, ce type d'outil, c'est aussi une façon de revivifier la démocratie participative.
Bah, d'une part, c'est une façon de mettre le citoyen au cœur de la coproduction du service. Donc ce qu'on va faire va correspondre à ce qu'il attend. Quand on fait un simulateur de tarifs, c'est parce qu'on nous a dit « Ah bah tiens, moi, j'aimerais bien savoir à peu près combien je paierais ma facture si j'inscris mes deux enfants au centre de loisirs. » On s'est dit « Tiens, il y a peut-être un besoin. » Et donc on a poussé ça. C'est aussi une manière d'élaborer les dispositifs et d'arriver à des décisions qui prennent en compte le point de vue du citoyen. C'est pas quelque chose qui tombe d'en haut et qui aujourd'hui, on le sait, n'est plus du tout accepté, et les citoyens attendent d'autres choses. Donc c'est complémentaire à un dispositif de démocratie participative comme les conférences de consensus qu'on peut faire sur le territoire, sur le climat, sur tel ou tel quartier ou telle problématique. On l'a fait sur l'éducation, on a un projet éducatif qu'on a appelé Génération Dijon. Et là, on a dans toutes les commissions de quartier, on a fait travailler justement et coproduit des propositions avec les citoyens. Ça descend et ça remonte.
Donc c'est une plateforme initiale qui avait ce sujet sur certains services publics et finalement se généralise, et en fonction des besoins et de la co-construction avec les uns et les autres, vous pourrez l'élargir. Voilà. Mais on va suivre ça de près en tout cas. Merci Denis Hameau d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt. On fera peut-être un nouveau point d'étape l'année prochaine.
Avec plaisir.
Merci.
Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, du 22 au 24 novembre à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeurs et Cité Verte Europe, sur Radio Imo et Radio Territoria.